Chapitre 12 qui contient une très importante détermination de M. Pickwick, laquelle fait époque dans sa vie, non moins que dans cette véridique histoire. Quoique l'appartement de M. Pickwick dans la rue Goswell fût d'une étendue restreinte, il était propre et confortable, et surtout en parfaite harmonie avec son génie observateur. Son parloir était au rez-de-chaussée, sur le devant, sa chambre à coucher sur le devant, au premier étage. Et ainsi, soit qu'il fût assis à son bureau, soit qu'il se tînt debout devant son miroir à barbe, il pouvait également contempler toutes les phases de la nature humaine dans la rue Goswell, qui est presque aussi populeuse que populaire. Son hôtesse, Madame Bardell, veuve et seule exécutrice testamentaire d'un douanier, était une femme grassouillette, aux manières affairées, à la physionomie avenante. À ses avantages physiques, elle joignait de précieuses qualités morales. Par une heureuse étude, par une longue pratique, elle avait converti en un talent exquis le don particulier qu'elle avait reçu de la nature pour tout ce qui concernait la cuisine. Il n'y avait dans la maison ni bambins, ni volatiles, ni domestiques. Un grand homme et un petit garçon en complétaient le personnel. Le premier était notre héros, le second une production de Madame Bardell. Le grand homme était rentré chaque soir précisément à 10 heures et peu de temps après, il se condensait dans un petit lit français placé dans un étroit parloir sur le derrière. Quant au jeune Master Bardell, ses yeux enfantins et ses exercices gymnastiques étaient soigneusement restreints aux trottoirs et aux ruisseaux du voisinage. La propreté, la tranquillité régnaient donc dans tout l'édifice et la volonté de M. Pickwick y faisait loi. La veille du départ projeté pour Eatanswill, vers le milieu de la matinée, la conduite de notre philosophe devait paraître singulièrement mystérieuse et inexplicable pour quiconque connaissait son admirable égalité d'esprit et d'économie domestique de son établissement. Il se promenait dans sa chambre d'un pas précipité. De 3 minutes en 3 minutes, il mettait la tête à la fenêtre, il regardait constamment à sa montre et laissait échapper divers autres symptômes d'impatience fort extraordinaires chez lui. Il était évident qu'il y avait en l'air quelque chose d'une grande importance, mais ce que ce pouvait être, Madame Bardell elle-même n'avait pas été capable de le deviner. « Madame Bardell, dit à la fin M. Pickwick, lorsque cette aimable dame fut sur le point de terminer l'époussetage, longtemps prolongé, de sa chambre. « Monsieur, répondit Madame Bardell, votre petit garçon est bien longtemps dehors. « Vraiment, monsieur, c'est qu'il y a une bonne course d'ici au Borough. Ah, cela est juste, repartit M. Pickwick. Et il retomba dans le silence. Madame Bardell recommença à épousseter avec le même soin. « Madame Bardell, reprit M. Pickwick au bout de quelques minutes. « Monsieur, pensez-vous que la dépense soit beaucoup plus grande pour 2 personnes que pour 1 seule ?»« Là, Monsieur Pickwick, répliqua Madame Bardell en rougissant jusqu'à la garniture de son bonnet, car elle croyait avoir aperçu dans les yeux de son locataire un certain clignotement matrimonial. « Là, Monsieur Pickwick, quelle question !»« Eh bien, qu'en pensez-vous »« Cela dépend, » repartit Madame Bardell en approchant son plumeau près du coude de Monsieur Pickwick. « Cela dépend beaucoup de la personne, vous savez, Monsieur Pickwick. » « Et si c'est une personne soigneuse et économe ?»« Cela est très vrai. Mais la personne que j'ai en vue, » ici il regarda fixement Madame Bardell, « possède, je pense, ses qualités. Elle a de plus une grande connaissance du monde et beaucoup de finesse, Madame Bardell. Cela me sera infiniment utile. »« Là, Monsieur Pickwick !» murmura Madame Bardell en rougissant de nouveau. « J'en suis persuadée, » continua le philosophe avec une énergie toujours croissante, comme c'était son habitude quand il parlait sur un sujet intéressant. J'en suis persuadé, et pour vous dire la vérité, madame Bardel, c'est un parti pris.
Seigneur Dieu ! S'écria madame Bardel.
Vous trouverez peut-être étrange, poursuivit l'aimable monsieur Pickwick en jetant à sa compagne un regard de bonne humeur. Vous trouverez peut-être étrange que je ne vous ai pas consulté à ce sujet et que je ne vous en ai même jamais parlé jusqu'au moment où j'ai envoyé votre petit garçon dehors.
Madame Bardel ne put répondre que par un regard. Elle avait longtemps adoré M. Pickwick comme une divinité dont il ne lui était pas permis d'approcher, et voilà que tout d'un coup, la divinité descendait de son piédestal et la prenait dans ses bras. M. Pickwick lui faisait des propositions directement, par suite d'un plan délibéré, car il avait envoyé son petit garçon au Borough pour rester seul avec elle. Quelle délicatesse ! Quelle attention !
« Eh bien, dit le philosophe, qu'en pensez-vous ? »
« Ah, monsieur Pickwick ! »
répondit madame Bardel, toute tremblante d'émotion.
« Vous êtes vraiment bien bon, monsieur !»«
Cela vous épargnera beaucoup de peine, n'est-il pas vrai ?»«
Oh, je n'ai jamais pensé à la peine, et naturellement, j'en prendrai plus que jamais pour vous plaire. Mais vous êtes si bon, monsieur Pickwick ! D'avoir songé à ma solitude.
Ah, certainement, je n'avais pas pensé à cela. Quand je serai en ville, vous aurez toujours quelqu'un pour causer avec vous. C'est ma foi vrai.
Il est sûr que je dois me regarder comme une femme bien heureuse.
Et votre fils ?
Que Dieu bénisse le cher petit !
Interrompit madame Bardel avec des transports maternels.
« Lui aussi aura un compagnon, » poursuivit M. Pickwick en souriant gracieusement. « Un joyeux compagnon qui, j'en suis sûr, lui enseignera plus de tours en une semaine qu'il n'en aurait appris tout seul en un an. »«
Oh, cher, excellent homme !» murmura madame Bardel.
M. Pickwick tressaillit.
« Oh, cher et tendre ami !»
Et sans plus de cérémonie, la dame se leva de sa chaise et jeta ses bras au cou de M. Pickwick avec un déluge de pleurs et une tempête de sanglots.
« Le ciel me protège !» s'écria M. Pickwick plein d'étonnement.
« Madame Bardel, ma bonne dame ! Bonté divine, quelle situation ! Faites attention, je vous prie ! Laissez-moi, Madame Bardel, si quelqu'un venait !»
« Eh, que m'importe !» répondit madame Bardel avec égarement. « Je ne vous quitterai jamais, cher homme, excellent cœur !»
Et en prononçant ces paroles, elle s'attachait à monsieur Pickwick aussi fortement que la vigne à l'ormeau.
« Le Seigneur ait pitié de moi !» dit monsieur Pickwick en se débattant de toutes ses forces. « J'entends du monde sur l'escalier. Laissez-moi, ma bonne dame, je vous en supplie, laissez-moi !»
Mais les prières, les remontrances étaient également inutiles, car la dame s'était évanouie dans les bras du philosophe, et avant qu'il eût eu le temps de la déposer sur une chaise, Master Bardel introduisit dans la chambre messieurs Tupman, Winkle et Snodgrass. Monsieur Pickwick demeura pétrifié. Il était debout, avec son aimable fardeau dans ses bras, et il regardait ses amis d'un air hébété, sans leur faire un signe d'amitié, sans songer à leur donner une explication. Eux, à leur tour, le considéraient avec étonnement, et Master Bardel, plein d'inquiétude, examinait tout le monde sans savoir ce que cela voulait dire. La surprise des Pickwickiens était si étourdissante et la perplexité de M. Pickwick si terrible qu'ils auraient pu demeurer exactement dans la même situation relative jusqu'à ce que la dame évanouie eût repris ses sens, si son tendre fils n'avait précipité le dénouement par une belle et touchante ébullition d'affection filiale. Ce jeune enfant, vêtu d'un costume de velours rayé, orné de gros boutons de cuivre, était d'abord demeuré, incertain et confus, sur le pas de la porte.
mais par degrés, l'idée que sa mère avait souffert quelques dommages personnels s'empara de son esprit à demi développé. Considérant M. Pickwick comme l'agresseur, il poussa un cri sauvage et, se précipitant tête baissée, il commença à assaillir cet immortel gentleman aux environs du dos et des jambes, le pinçant et le frappant aussi vigoureusement que le lui permettait la force de son bras et la violence de son emportement.
« Ôtez-moi ce petit coquin !» s'écria M. Pickwick dans une agonie de désespoir. « Il est enragé !»«
Qu'est-il donc arrivé ?» demandèrent les trois Pickwickiens stupéfaits.
« Je n'en sais rien !» répondit le menteur avec dépit. « Ôtez-moi cet enfant !»
M. Winkle porta à l'autre bout de l'appartement l'intéressant garçon qui criait et se débattait de toutes ses forces. « Maintenant, poursuivit M. Pickwick, « aidez-moi à faire descendre cette femme. »«
Ah, je suis mieux maintenant !» soupira faiblement Madame Bardell.
« Permettez-moi de vous offrir mon bras, » dit M. Tupman, toujours galant.
« Merci, monsieur, merci !»
s'écria la dame d'une voix hystérique et elle fut conduite en bas, accompagnée de son affectionné fils.
« Je ne puis concevoir, » reprit M. Pickwick quand ses amis furent revenus. « Je ne puis concevoir ce qui est arrivé à cette femme. Je venais simplement de lui annoncer que je vais prendre un domestique lorsqu'elle est tombée dans le singulier paroxysme où vous l'avez trouvée. C'est fort extraordinaire. »«
Il est vrai, » dirent ses trois amis.
« Elle m'a placé dans une situation bien embarrassante, » continua le philosophe.
« Il est vrai, » répétèrent ses disciples en toussant légèrement et en se regardant l'un l'autre d'un air dubitatif. Cette conduite n'échappa pas à M. Pickwick. Il remarqua leur incrédulité. Son innocence était évidemment soupçonnée. Après quelques instants de silence, M. Tupman prit la parole et dit « Il y a un homme en bas dans le vestibule. » « C'est celui dont je vous ai parlé, » répliqua M. Pickwick. Je l'ai envoyé chercher au bourg.
Ayez la bonté de le faire monter, Snodgrass. »
Monsieur Snodgrass exécuta cette commission et Monsieur Samuel Weller se présenta immédiatement.
« Ah ah, vous me reconnaissez, je suppose, » lui dit Monsieur Pickwick.
« Un peu, » répliqua Sam avec un clin d'œil protecteur.
« Drôle de gaillard, celui-là. Trop malin pour vous, hein ?» Il vous a légèrement enfoncé, n'est-ce pas ?
Il ne s'agit point de cela maintenant, reprit vivement le philosophe. J'ai à vous parler d'autre chose. Asseyez-vous.
Merci, monsieur, répondit Sam, et il s'assit sans autre cérémonie, ayant préalablement déposé son vieux chapeau blanc sur le carré.
Ça n'est pas fameux, disait-il en parlant de son couvre-chef et en souriant agréablement aux Pickwickiens assemblés. Mais c'est étonnant à l'user. Quand il avait des bords, c'était un beau bolivar. Depuis qu'il n'en a plus, il est plus léger. C'est quelque chose. Et puis, chaque trou laisse entrer de l'air. C'est encore quelque chose. J'appelle ça un feutre ventilateur.
Maintenant, reprit M. Pickwick, il s'agit de l'affaire pour laquelle je vous ai envoyé chercher, avec l'assentiment de ces messieurs.
« C'est ça, monsieur, accouchons, comme dit cet autre à son enfant qui avait avalé un liard. »«
Nous désirons savoir en premier lieu si vous avez quelque raison d'être mécontent de votre condition présente. »«
Avant de satisfaire à cette question ici, je désirerais savoir en premier lieu si vous en avez une meilleure à me donner. »
Un rayon de calme bienveillance illumina les traits de monsieur Pickwick lorsqu'il répondit «
J'ai quelque envie de vous prendre à mon service.
Vrai ? Demanda Sam.
Monsieur Pickwick fit un geste affirmatif.
Gage ?
12 guinées par an.
Habit ?
2 habillements.
L'ouvrage ?
Me servir et voyager avec moi et ces gentlemen.
Ôtez les criteaux ! S'écria Sam avec emphase. Je suis loué à un gentleman seul et le terme est convenu.
Vous acceptez ma proposition ?
Certainement.
Si les habits me prennent la taille moitié aussi bien que la place, ça ira.
Naturellement, vous pouvez fournir de bons certificats.
Demandez à l'hôtesse du Blanc Cerf. Elle vous dira ça, monsieur.
Pouvez-vous venir ce soir ?
Je vais endosser l'habit à l'instant même s'il est ici, s'écria Sam avec une grande allégresse.
Revenez ce soir à 8 heures, répondit monsieur Pickwick, et si les renseignements sont satisfaisants, nous verrons à vous faire habiller.
Sauf une aimable indiscrétion, dont s'était en même temps rendue coupable une des servantes de l'hôtel, la conduite de monsieur Weller avait toujours été très méritoire. Monsieur Pickwick n'hésita donc pas à le prendre à son service, et avec la promptitude et l'énergie qui caractérisaient non seulement la conduite publique, mais toutes les actions privées de cet homme extraordinaire, il conduisit immédiatement son nouveau serviteur dans un de ces commodes emporiums où l'on peut se procurer des habits confectionnés ou d'occasion et où l'on se dispense de la formalité inconnue de prendre mesure. Avant la chute du jour, M. Weller était revêtu d'un habit gris avec des boutons PC, d'un chapeau noir avec une cocarde, d'un gilet rayé, de culottes et de guêtres et d'une quantité d'autres objets trop nombreux pour que nous prenions la peine de les récapituler. Lorsque le lendemain matin, cet individu, si soudainement transformé, prit sa place à l'extérieur de la voiture d'Ethanswill, « Ma foi, se dit-il, je ne sais point si je vais être un valet de pied ou un groom ou un garde-chasse. J'ai la philosomie mitoyenne entre tout ça. Mais c'est égal, ça va me changer d'air. Il y a du pays à voir et pas grand-chose à faire. Ça va fameusement à ma maladie, ainsi donc, vive Pickwick, que je dis. »